Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du club Hygiène. Oui, l'USB-C, ça vous a comme un petit parfum de l'enfer. On a l'impression que c'est simple, mais en fait, rien n'est plus compliqué que ce connecteur. À partir de ce soir, vous pourrez commencer à suivre sur le club Hygiène une série d'articles consacrés à la jungle infernale de l'USB-C et comment s'en sortir. Je recevrai Pierre qui a sorti la machette pour l'occasion. Rendez-vous après le flash info. Nous sommes le mardi 31 janvier, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui. Apple s'est jusqu'à présent tenu à l'écart de la mode des smartphones pliables, mais il se pourrait bien que le constructeur finisse par craquer, et ce, dès l'année prochaine. Ming-Chi Kuo et sa boule de cristal magique prédisent en effet le lancement en 2024 d'un iPad pliant. L'analyste avait parlé surtout d'un iPhone, mais finalement il pourrait d'abord proposer une tablette. C'est peut-être plus simple à développer. 2024, ça paraît tôt à l'échelle d'Apple et puis on rappelle que ce n'est qu'une rumeur. Mais c'est vrai que la concurrence n'a pas attendu. En fait, Samsung s'est lancé en pionnier en 2019 avec le Galaxy Z Fold. C'est sûr qu'il y a eu des petits problèmes de jeunesse, mais le marché des smartphones pliables est sur le point d'atteindre une certaine maturité. Alors, il est sûrement temps pour Apple de faire un splash sur ce marché, histoire de ne pas être complètement distancé. Les très heureux propriétaires d'un MacBook Pro 16 pouces avec une puce M2 Max bénéficient d'un petit bonus supplémentaire. Le portable se montre en effet un tout petit peu plus rapide que le modèle de 14 pouces avec la même puce. Dans le test Geekbench, le score en monocœur dépasse les 2000 points alors qu'il est de 1900 avec la M2 Max du 14 pouces. Il se trouve en fait que la fréquence de la puce M2 Max du 16 pouces est de 3,7 GHz environ, soit quelque chose comme 200 MHz de plus que sur les autres puces M2. Ce gain proviendrait du système de refroidissement du MacBook Pro 16 pouces qui serait plus grand dans cette machine. Forcément, il y a plus de place à l'intérieur, donc les ingénieurs d'Apple en auraient profité. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour cette machine qui s'annonce plutôt bien. Oui, ok, c'est bizarre comme chanson, et pour cause, elle n'a pas été ni écrite, ni même chantée par un humain. C'est un extrait de la nouvelle intelligence artificielle de Google, qui s'appelle Music LM. Cette boîte noire peut produire de la musique qui reste cohérente pendant plusieurs minutes, le tout étant généré à partir d'une poignée de mots. Oui, c'est l'équivalent musical de DALL-E pour les images ou de ChatGPT pour le texte. Google a détaillé cette IA qui a mouliné des millions de clips audio pour créer de la musique, entre guillemets. Google n'a pas l'intention de lâcher cette intelligence artificielle au grand public pour des raisons de droits d'auteur, mais c'est une manière de montrer que le moteur de recherche travaille activement sur le sujet. Le lancement de ChatGPT en fin d'année dernière a bousculé Google, qui doit maintenant accélérer le développement de ses bots générateurs de contenu. L'USB-C, c'est une vraie chimère. On retrouve ce connecteur unique dans à peu près tous les appareils d'Apple, sauf sur l'iPhone évidemment, et c'est la même chose dans toute l'industrie. Ça donne l'impression que tout le monde est logé à la même enseigne et qu'un câble qui sert à recharger un MacBook peut aussi servir à transporter des données et à brancher un écran. Lourde erreur. En fait, l'USB-C, c'est tout un univers et même un multivers vu l'incroyable diversité des situations et des technologies. Pierre a rédigé toute une série d'articles que vous pourrez lire ces prochains jours sur le club Hygiène. Il va nous aider à y voir un peu plus clair, il va essayer. Salut Pierre.
Salut Mickaël.
Alors, j'ai envie de te demander tout simplement, mais c'est quoi ce bordel?
Ce bordel, c'est une norme qui contient le mot universel dans le nom, parce que le U ça veut dire universel, et qui date du milieu des années 90 en fait. C'est une norme qui a été améliorée, accélérée, modifiée, qui est devenue la seule possibilité ou presque pour connecter des appareils. On ne va pas demander aux gens ce que c'est du SCSI. Voilà. Ils connaissent l'USB et c'est tout. L'USB-C, c'est une bonne idée, parce que du coup, en fait, on peut mettre dans n'importe quel sens, hein, surtout par rapport aux trois sens de la prise classique. Genre, ça rentre pas, je retourne, ça rentre pas, je retourne, finalement, ça rentre. mais c'est compliqué. C'est très, très compliqué. C'est bien plus compliqué que je rentre dans le câble dans la prise et ça va fonctionner. Mmh. Et puis, les gens qui s'occupent de standardiser ça, alors ça s'appelle l'USB-IF, ils ont parfois des idées bizarres, genre ils se sont dit, on ne va pas appeler ça USB 3 quelque chose, on va appeler ça USB 3 Gen 2x2, par exemple.
Voilà. Oui.
Bon.
Un des principaux problèmes qui se pose à l'utilisateur, c'est de choisir le bon câble pour telle ou telle situation. D'abord, pour tout ce qui est le transfert des données, par exemple.
Ouais, alors en fait, il y a un gros problème avec l'USB, c'est que c'est rapide. Donc on peut faire passer 10, 20, 40 gigabits par seconde dans un câble. Le problème, c'est qu'à ces fréquences-là, ça devient très compliqué d'avoir un signal qui est parfaitement correct. Mmh. Et donc, les concepteurs de la norme, ils ont mis simplement une limite très simple. Si ça fait moins de 1 mètre, on aura la vitesse maximale. On peut faire du 10 gigabits seconde sans problème. Entre 1 et 2 mètres, on peut faire du 5 gigabits. Au-delà de 2 mètres, on arrive au débit de l'USB 2, donc ça veut dire à peu près 480 mégabits seconde, donc à peu près 0,5 gigabits. Donc c'est beaucoup plus lent. Le problème, c'est que même si c'est parfois écrit sur les câbles, c'est pas quelque chose de particulièrement visible et connu. Et donc on peut avoir des surprises. Alors le problème classique, c'est j'ai reçu un câble avec mon Mac pour le charger. Et en fait, le câble qui est fourni avec les Mac, qui est un câble dit de charge, bah lui, en fait, il ne va pas très vite parce qu'il est long, parce qu'il ne sert qu'à charger. Et du coup, on ne peut pas, si vous branchez un SSD externe, par exemple, avec un câble comme ça, alors ça va probablement fonctionner, mais lentement.
L'USB-C, ça permet également d'utiliser des écrans, mais là aussi, le choix du bon câble pose un vrai problème.
Bah en fait, c'est la même chose. Donc, quand on branche un écran, en fait, c'est encore un peu plus compliqué avec un écran.
Oui.
Parce que dans un seul câble, on fait passer de l'USB et on fait passer de la vidéo. Alors, la vidéo, c'est du DisplayPort dans une autre prise. Donc, il faut voir la prise USB-C, il faut voir ça comme une prise DisplayPort avec un format différent. Mmh. Le problème, c'est que pour plein de raisons techniques par rapport au nombre de fils, c'est que si par exemple vous utilisez un hub USB-C, hein, ce que vous avez peut-être chez vous pour brancher tout ce que vous n'avez pas branché directement sur le Mac, et ben votre écran il va être limité en débit. Il n'y a pas assez de bande passante pour tout gérer, et donc si vous branchez un écran, vous êtes limité, par exemple, si vous faites de la 4K, ce qui est classique sur un téléviseur, vous êtes limité à 30 images secondes. Ouais. Et travailler avec un écran à 30 images secondes, c'est très désagréable, parce que ça fait une souris qui bouge très lentement. Ouais. Alors que si vous branchez l'écran directement sur le Mac, vous aurez, par exemple, 60, voire 120, et même 240 images secondes sur les Macs les plus récents. Avec un écran, en fait, le truc, c'est que il vaut mieux utiliser le câble qui a été fourni avec, et pas par exemple le câble de charge d'un Mac, parce que ça ne marchera pas. Il vaut mieux utiliser un câble qui n'est pas trop long. Dans le meilleur des cas, en fait, ce qui va se passer, c'est que vaut mieux utiliser celui qui est fourni avec, et sur certains écrans, par exemple chez Apple, c'est déjà arrivé, le câble est fixé à l'écran. Mais quand le câble est fixé à l'écran, on peut faire des longueurs plus élevées, parce que le fabricant s'est arrangé pour être certain que ça fonctionne.
Est-ce qu'il existe un câble USB-C unique qui offre les meilleures performances, que ce soit pour les données ou pour la vidéo, ou est-ce qu'il faut à chaque fois partir un peu à la pêche comme ça?
Alors ça, c'est très compliqué, ça dépend en fait de votre budget. Dans l'absolu, en fait, le plus simple, c'est si on prend un câble qui fait moins d'un mètre et qui n'est pas estampillé de charge, parce qu'il y a des câbles de téléphone qui ne servent que à la charge et qui sont courts, mais en gros, voilà, un câble de qualité, 80 cm, ça devrait fonctionner à peu près dans tous les cas, même si du coup c'est pas nécessairement très pratique. Par exemple, pour charger un Mac, un câble qui fait 80 cm, c'est pas pratique parce que le bloc est souvent plus loin que ça. Pour avoir un écran plus long, enfin un câble un peu plus long en fait, alors il faut aller vers les câbles Thunderbolt 4 actifs. Je vais pas m'étendre sur ça ici, il va y avoir des articles qui sera vraiment pensé là-dessus. Voilà, les câbles Thunderbolt 4 actifs, ça fonctionne à peu près dans tous les cas. La seule chose, c'est que c'est particulièrement cher parce qu'il y a des puces dans les câbles et que c'est des trucs super compliqués et chers. Pour vous donner une idée, celui que vend Apple, ça coûte à peu près 150€ le câble.
Évidemment, on n'arrête pas la course du progrès et l'USB 4 frappe déjà à nos portes. Enfin, ça dépend de quoi on parle.
Alors, l'USB 4, c'est encore un peu plus compliqué. Donc, pour résumer rapidement, on a eu l'USB 1 il y a très longtemps, du temps du premier iMac. L'USB 2 au début des années 2000, l'USB 3 vers 2010. Prochaine étape, c'est l'USB 4. Alors, c'est une norme que les Mac gèrent. Donc, si vous avez un Mac M1 ou M2, il est compatible USB 4. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de périphérique USB 4. Parce que pour que ça marche, il faudrait qu'il y ait une puce à mettre dans les boîtiers. Donc, par exemple, dans les boîtiers externes pour SSD. Et en fait, ça n'existe pas vraiment. Donc, quand on vous vend un boîtier USB 4 actuellement, Techniquement, c'est un boîtier USB-C, USB 3 en fait, et Thunderbolt en même temps.
D'accord.
Alors du coup, c'est compliqué à faire parce que bah faut deux puces qui vont devoir passer de l'une à l'autre en fonction de ce qu'on branche en passe. Et surtout, ça coûte cher. Ça fait des boîtiers externes qui coûtent 100 à 150 euros sans le SSD qui va avec. Et voilà, on espérait qu'il y aurait des nouveautés USB 4 au CES. Il n'y a pas eu grand-chose de présenté à ce niveau-là, mais ça devrait arriver un jour. Et la dernière anecdote qui est liée à l'USB 4, parce que ça permet de comprendre que les gens qui font ça... ont des idées parfois un peu bizarres. Quand on parle d'USB 3, en fait, on devrait dire, par exemple, il y a l'USB, on doit mettre une espace, en fait, il y a USB, espace 3, point quelque chose. Donc, il y a eu la 3.0 en 2009, 3.1, 3.2. Voilà, bon, tout le monde écrit ça comme ça depuis des années. Pour l'USB 4, ils ont décidé que, oui, mais en fait, non, une espace, c'est pas bien. Donc, en fait, on doit écrire USB 4 en un seul mot, en théorie. Sans espace. Et du coup, quand ils ont décidé, mais si on faisait un USB 4 plus rapide, ils ne sont pas dit, on va appeler ça USB 4.1 comme ils font à chaque fois, ou USB 5. Non, ça s'appelle USB 4 V2. Voilà, c'est compliqué.
Eh bien, merci pour ce tour d'horizon forcément trop rapide. Si vous êtes intéressé par l'USB-C, bah, je vous renvoie vers la série d'articles que vous retrouverez sur le Club Hygène. Salut Pierre.
Salut Mickaël.
On se retrouve très bientôt pour de futures aventures. Du makes that moon get a dead and run to Viking
after. Hey, you. Fine body, cliente, ni hatta kobe, duya no kisa de mi se. Girl, no, I got it. Go ahead and come if it's your head.